In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. La Sainte Église, dans la Sainte Liturgie, aujourd'hui, nous présente une parabole de l'Évangile qui est certainement connue, la parabole délivrée, la tzitzanie. Et quelles leçons on peut tirer de cette parabole? Certainement, notre Seigneur, il a semé le blé de la foi. Mais, inimicus homo, les démons, il a aussi semé le péché de l'apostasie. Et combien nous devons aujourd'hui constater cela. Et la parabole continue et il nous dit qu'on va se terminer. Et les bons grains de blé seront mis à part. Ils iront, dans d'autres mots, au paradis. Et ceux qui ils auront été victimes de l'ennemi, du démon, eh bien, ils iront à l'enfer. Et c'est Saint Augustin qui nous dit ça dans les Bréviaire, aujourd'hui, oui, la zizanie, c'est aussi l'apostasie. Eh bien, il faut que nous choisissons sur quel point nous arrêter pour méditer. Et alors, pour une fois, moi je veux faire quelque chose de très impopulaire. Je voudrais profiter de ces passages de l'Évangile pour parler de l'enfer. Une fois aussi à Écône, il faut bien que nous essayions d'étaler sous nos yeux cette réalité dont notre Seigneur nous parle dans l'Évangile presque 60 fois dans des différentes façons. Il nous parle de l'enfer. Je comprends, ce n'est pas trop populaire. Il ne faudra pas se présenter aux élections après avoir parlé de l'enfer. Mais depuis que notre Seigneur Jésus-Christ il en a parlé. Nous aussi, nous les prêtres, et c'est Saint Augustin encore qui le dit, nous avons le sacré devoir d'en parler. Et nous pouvons apporter cette contemplation pour mieux comprendre la gravité du péché et surtout le péché d'apostasie. Car aujourd'hui, il y a ces énormes péchés. Et Saint Thomas, il le dit, les péchés les plus graves, ce n'est pas du sixième commandement. Ça, c'est les plus honteux, avec l'avarice. Les péchés les plus graves, celui qui blesse davantage le cœur de Dieu, notre Créateur, et de notre Seigneur, c'est les péchés contre la foi. Et quelle zizanie, quelle ivrée a été semée, d'abord dans la société temporelle, si nous voyons l'histoire de l'Église. On a voulu mettre la religion chrétienne fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu. Il n'y en a pas une autre au ciel. On a voulu mettre sur le même plan que les autres religions, fruit d'un effort humain, pour ainsi dire, un effort divin et un effort humain mis sur le même plan. Quelle apostasie, quelle zizanie. Mais vous êtes témoin de plus que ça. Vous êtes témoin du passage de l'apostasie dans la société temporelle, ce principe de tolérance est rentré dans la société ecclésiastique, dans l'Église, avec le Vatican II, les décrets sur la liberté religieuse. Quelle horreur, quelle horreur. Le même principe de tolérance qui a détruit la société chrétienne, la société temporelle chrétienne, maintenant elle est officiellement dans l'Église. Comment nous pouvons encore dire « Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus » quand on a accepté une pareille apostasie. Comment nous pouvons dire dans la Sainte Messe après « Per ipsum et cum ipso et in ipso »« Omnis honor et gloria » c'est pas vrai. Vous avez trahi notre Seigneur. Vous avez mis la religion catholique sur le même plan que les autres religions. quelle zizanie et avec quelle luxuriance, si on peut s'exprimer comme ça, avec quel développement maintenant cette zizanie pousse dans l'Église et avec quelles conséquences. C'est là-dessus que nous devons nous entretenir. Le péché contre la foi, eh bien, quelqu'un qui perd la foi, il ne peut pas se sauver. Saint Paul nous le dit. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, on va à l'enfer. Alors, essayons d'étaler sous nos yeux la conséquence de cette apostasie. C'est Pie XII qui nous le dit à l'époque de l'année sainte, 1950, en prêchant au prédicateur du carême, il dit, après avoir fait un tableau du monde moderne, il faut réveiller l'esprit de pénitence, prêcher les vérités fondamentales, le but de l'homme. Ce but de l'homme est devenu plus nécessaire et plus urgent que jamais. Et plus avant, il continue et dit, et cela vaut pour la prédication de l'enfer. On a les devoirs sacrés d'en parler sans aucune atténuation. Prêtre, futur prêtre, tel que Jésus-Christ nous l'a révélé, et les papes continuent. Le désir du ciel est certainement plus parfait, mais pas toujours, il est le plus efficace pour éloigner les hommes du péché et les conduire à Dieu. C'est vrai. Le désir du ciel est plus parfait. J'espère d'avoir une occasion pour vous en parler. Il faut parler du paradis. Si vous saviez ce qui nous attend, il faut beaucoup désirer ça. Mais le désir du ciel est certainement plus parfait, mais pas toujours il est le plus efficace pour éloigner les hommes du péché et le conduire à Dieu. Et quel péché aujourd'hui? Le péché d'apostasie, le péché contre la foi. Oui. Eh bien, que des papes, ils ont parlé, après notre Seigneur dans l'Évangile sur l'enfer, que des saints ont prêché là-dessus, que des fondateurs d'ordre, ils ont prêché là-dessus. Et nous aussi, alors, nous avons le devoir d'en parler. Et au début de ce siècle, la Sainte Vierge, à Fatima, elle a voulu étaler sous les yeux de l'homme moderne, de l'homme contemporain, cette vision de l'enfer. Mais d'une façon particulière, elle a choisi pas trois hommes, elle a choisi trois enfants, pour montrer, avec une contemplation, avec un regard effroyable, cette vision de l'enfer, pour faire comprendre qu'est-ce que c'est s'éloigner de Dieu, et spécialement s'éloigner de Dieu par la foi. C'est la façon la plus radicale de s'éloigner de Dieu. Oh, la Sainte Vierge n'est s'entend en pédagogie. Elle ne connaît pas la pédagogie. C'est difficile à dire, car le Créateur du ciel et de la terre lui a confié l'enfant, le plus précieux, notre Seigneur. La Sainte Vierge, elle connaît bien la pédagogie. Alors pourquoi, oh Sainte Vierge, vous avez voulu choisir trois enfants pour qu'ils aient cette vision effroyable, essayons de comprendre. Parce que nous réalisons la gravité du péché, parce que nous essayons de réaliser qu'est-ce que c'est cette zizania, qui est semée par l'ennemi, qui peut nous faire perdre le ciel, peut nous faire tomber dans l'enfer, et notamment la zizanie de l'apostasie générale. Eh bien, comment contempler cela? On peut essayer d'utiliser des images. Il semble qu'on ne peut pas exagérer à se représenter l'enfer. Je me rends compte, n'est-ce pas? Cela va contre tous les préjugés illuministes. Évidemment, les illuministes, ils sont mal à l'aise quand on parle de l'enfer. Je les comprends. Et que nous sommes en but d'illuminisme. On prétend avoir supprimé les superstitions. On prétend avoir donné une religion acceptable pour l'homme moderne. Oui, l'illuminisme a fait ça. C'est plus la religion catholique. Oui. Eh bien alors, laissez-moi aller contre les préjugés illuministes, contre cet a priori. Essayons d'étaler sous nos yeux cette contemplation de l'enfer. Ça nous fera beaucoup de bien. Oui. Saint Jean Bosco, il disait, pour aller au ciel, il faut y croire. Pour aller à l'enfer, pas besoin. Justement parce qu'on n'y croit pas, on y va. Oui. Alors, essayons de représenter devant, à notre esprit, cette réalité effroyable. Nous devons avoir cette attitude d'esprit, n'est-ce pas? Garder présent devant nous toutes les réalités invisibles. Est-ce que vous avez droit à choisir vos contemplations? Séminariste, quelle est la dernière fois que vous avez médité l'enfer? Ça remonte. Les contemplations s'éloignent de votre mémoire, intelligence, volonté. Oui, s'éloignent. Essayez de garder présent dans votre esprit ce qui voit Dieu. Ayez cette attitude spirituelle. Nous devons apprendre à garder, être des contemplatifs. Gardez présent devant notre esprit les réalités invisibles. Qu'est-ce que nous dit Saint Paul? Le juste vit des fois. Le juste vit les réalités de la foi. Il faut encore les étaler sous les yeux. Eh bien alors, essayons de contempler ça. Nous vivons sur une croûte terrestre, et c'est vrai. Et au-dedans de la terre, il y a du magma, du feu. Et les théologiens, ils nous disent, là où on a fait les péchés, là nous serons punis. Nous aurons péché sur la terre, nous serons punis dans la terre. Et du feu, il y en a assez, hélas. Alors essayez de rentrer, peut-être par un volcan. Essayez de rentrer dans la croûte terrestre. Descendez dans cette galerie sombre. Essayez de rentrer par là. Approchez-vous. Rentrez dans les viscères de la terre, il y en a. Et ce n'est pas de l'imagination. C'est du réalisme. Du réalisme aristotélique, aristotélico-thomiste. Soyez réaliste, ne vivez pas d'illusions. Les illusions produisent des délusions. Vivez du réel, visible et invisible. Oui, soumettons-nous à la réalité sensible pour trouver la force de nous soumettre à la réalité sursensible, invisible, qui nous est enseignée par la foi. Et l'Église a le monopole de cet enseignement, pour toujours. Eh bien, contemplons ça, rentrons. Il y a eu des saints, des saintes, ils ont eu des visions de l'enfer. Ils ont décrit comme une grotte énorme, essayer de tomber dans cette galerie du volcan, et tomber dans cette lac du magma, c'est les paroles de notre Seigneur. Quelle effrayeur! Voilà où conduit le péché, voilà où conduit l'apostasie de la foi. Oui, vouloir changer la religion, vouloir abandonner les magistères de tous les papes, ça conduit à l'enfer, c'est la perte du ciel. Et alors essayez de réaliser devant vous ce qu'ils ont vu, les enfants de Fatima, ces âmes enveloppées du feu, en dehors et au-dedans. C'est effroyable, une vision effroyable. 1, 10, 1000, 100 000, millions, millions de millions. Oui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en écrivant à Sœur Céline, à sa sœur, elle disait, je vois tomber les âmes à l'enfer comme les flocons de neige quand il neige. Est-ce que vous avez essayé de regarder ça? La foi nous enseigne, si on meurt en état de péché mortel, on ne peut pas se sauver. Soyez réalistes, regardez autour de vous. Combien ils sont qui vivent en état de grâce? Combien ils sont qui meurent en état de grâce? Soyez réalistes, ne vivez pas d'illusions. Vous aurez des délusions. Je vois tomber les âmes à l'enfer comme des flocons de neige quand il neige. Futur prêtre, il y a le zèle des âmes, le zèle du salut des âmes, comme notre Seigneur. Oui, la vue, voir tous ces âmes, émettez vos parents, vos amis qui vivent en état de péché mortel. Et vous êtes séminariste et vous le savez et vous ne lui dites rien. C'est ça votre charité? Mettez toutes les personnes que vous connaissez. Ça vous donnera le zèle pour les sauver. Descendez en enfer, vivant, pour ne pas y descendre après la mort. Oui, la vue, l'ouïe, qu'est-ce qu'ils disent les saints? Hurlement, déshurlement. Oui, les enfants de Fatima, ils ont dit la même chose. Ces esprits que Dieu a représentés avec des formes sensibles aux yeux des enfants pour les faire comprendre. J'étais en l'air par ces flammes. Ils tombaient sans équilibre en hurlant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vivre des foi? Vivre avec des préjugés illuministes? Choisissez. Mais vous serez payé pour ce que vous affirmerez. Ou la foi, ou les préjugés courants d'aujourd'hui. Je comprends, c'est pas trop populaire. Ça va contre la mentalité commune, parler de ça. Des hurlements. Et pour faire un exemple, dans des hôpitaux psychiatriques où il y a des âmes qui souffrent de dépression, des abîmes de dépression. Ils font des hurlements tout le temps. Une fois, on avait demandé à une sœur, comment vous faites à vous habituer à ça? On ne s'habitue pas. Comment vous ferez à l'enfer? Comment feront les âmes qui vont à l'enfer? Vous ne voulez pas essayer de les sauver? Essayez de répandre sur eux le sang du Rédempteur, notre Seigneur. Futur prêtre, pourquoi vous êtes là? Sinon pour sauver les âmes. en appliquant le mérite de la rédemption, du calvaire, du Saint-Sacrifice, de la croix. Nous ne devons pas faire autre chose des hurlements. L'odorat, une pueur intenable. Les soldats à la première guerre, on n'avait pas le temps d'ensevelir les cadavres. On dit que c'était décomposé et on ne pouvait pas sortir de la tranchée. C'était intenable, c'est rien par rapport à l'enfer. C'est pas moi qui l'ai créé l'enfer. Et le bon Dieu ne l'a pas créé pour y envoyer les gens. Il l'a créé justement parce que les gens n'y aillent pas. Qui est en contemplant ça, il se rend compte de ce que c'est le péché. Il ne fasse pas le péché. Qu'il est bon, le bon Dieu. Vu, oui, odorat, goût, oui, les remords. Les remords de ne pas avoir voulu profiter de la grâce de Dieu. Les remords de n'avoir pas prié. Les remords d'avoir été une séminariste, une prêtre tiède peut-être, pour garder son profil de carrière. Non, ce n'est pas ça qu'a besoin l'Église. On a besoin d'hommes des fois, surtout dans cette crépuscule de l'Occident chrétien, au moment où la révolution passe de la société temporelle à la société ecclésiastique officiellement. On a besoin d'hommes pleins de foi. Le remords de ne pas avoir fait son devoir, de ne pas avoir travaillé, étudié sa théologie, prié, être devenu des hommes de raison. On a besoin des gens qui ont les crocs sur les genoux parce qu'ils savent encore prier les bons dieux. Oui, c'est ça qui a besoin le monde moderne. Vu, oui, odorat. Goût, les remords de ne pas avoir prêché les rosaires. La Sainte Vierge a promis un moyen si facile pour sauver les âmes. Saint Louis Grignan de Montfort, il dit, dans le secret admirable du Saint Rosaire, il parle du bienheureux Alain de la Roche. Et la Sainte Vierge a dit à ces bienheureux, ceux qui diront le chapelet tous les jours, ils seront sauvés. C'était si facile de se sauver. Est si facile de se sauver. Il faut encore prêcher. Il faut encore apprendre aux gens à méditer, à contempler le chapelet. Voilà notre vocation. Vous avez une place dans la société. Vous avez un rôle capital dans la société. Nous ne devons pas faire concurrence aux assistants sociales. Non, nous devons apprendre la foi, enseigner la foi. C'est celle qui nous porte au ciel. Vu, oui, odorat, goût, et surtout les toucher. Les gens, ils sont impressionnés par les flammes de l'enfer. C'est pour ça que les bons dieux, ils les ont mis. Mais comme les âmes, ils peuvent souffrir les flammes de l'enfer, ils n'ont pas les corps, eh bien les bons dieux, quand nous faisons mal, c'est vrai, c'est le corps sensible qui sent la douleur, mais c'est tout notre être qui est malheureux. Et les bons dieux, ils donnent une sensibilité à ces âmes, parce qu'ils puissent souffrir. Et après le jugement dernier, il y a la résurrection des corps, comme nous chantons dans les credos, et alors avec âme et corps, ils iront, et je n'oserais pas le dire si notre Seigneur ne l'aurait pas dit, ils iront au supplice éternel. Et nous n'avons pas le droit de faire des rabais. Oui. Et comment ils souffrent les âmes alors? Eh bien, essayez de vous brûler une doigt pour une seconde. C'est mort, ça mord la flamme. Une main, un bras, les corps pour une seconde. Pour 5 secondes, c'est terrible. Pour 1 minute, 5 minutes, 1 heure, 1 journée, c'est intenable. Saint François de Sales, dans l'introduction à la vie dévote, il nous épargne pas la méditation de l'enfer. Et il nous dit, comment vous qui ne savez pas passer une nuit quand vous êtes un peu dérangé, ou la nuit c'est trop longue, comment vous ferez pour l'éternité de l'enfer? Oui. Une année, 10 ans, 1 siècle, toujours, peramnia secula seculorum. Dieu est Dieu. Nous devons vivre des fois. De quoi vous voulez vivre? Sinon, de la foi. Qu'est-ce que sera l'enfer? Bien, contemplons ça. Contemplons ça. Ayons ça sous les yeux. Et alors, si, en contemplant l'enfer, vous comprenez la gravité du péché et surtout la gravité de l'apostasie de la foi, alors, comme dit Saint Ignace, tournez la page. Et mettez-vous au pied de la croix à faire une colloque de miséricorde. Ô mon Jésus et mon Sauveur, merci. Moi, j'aurais déjà dû être en enfer depuis longtemps. Cet ami qui est mort dans un accident, moi-même j'aurais pu mourir. Cette maladie, oui. Non, Jésus vous a épargné. Et si vous connaissez l'image du bienheureux Angelico, il représente Saint Dominique au pied de la croix, qu'il embrasse la croix, et les saints de notre Seigneur qui descendent sur lui, eh bien, mettez-vous aussi au pied de la croix. Mettons-nous aussi au pied de la croix. Sur la croix, il y a l'unique Dieu qui s'est fait homme. Les autres religions sont fausses. Il faut les éliminer. Oui, ça vient du démon. Eh bien, il y a l'unique Dieu qui s'est fait homme. Que nous devons le remercier de nous avoir épargnés jusqu'à maintenant, de nous avoir gardés dans la foi, que nous devons le remercier parce qu'il ne nous a pas laissé tomber en enfer, et à l'enfer on y tombe parce qu'on ne croit pas à notre Seigneur Jésus-Christ, ou en y croyant, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Que nous devons le remercier. Ô mon Jésus, laissez-moi contempler vos plaies, chacune d'eux. Laissez-moi contempler votre sang très précieux, vous, l'unique Dieu. Et comme dit l'Évangile d'aujourd'hui, et qui c'est qui fera la moisson des siècles? On parle de la moisson. C'est à notre Seigneur qui fera la moisson des siècles, pas les autres religions. Il n'y a qu'un Dieu au ciel, c'est Jésus-Christ, à l'élimination des autres fausses religions. Gardez la foi. Eh bien, qui nous devons remercier? Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir créé, fait chrétien, fait catholique, mais dans une famille catholique. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, vous m'avez choisi pour garder la foi dans cet siècle d'apostasie. Ô mon Jésus, en vous contemplant, couvert de sang sur la croix, pour amour de qui? Jésus souffre, Jésus veut souffrir. C'est pour toi qu'il souffre. Qu'est-ce que tu feras pour le Christ? Tu veux l'abandonner? Pour accepter la nouvelle religion? Pour changer la religion? Avec quel courage on pourrait faire cette apostasie? Contempler les plaies de notre Seigneur, contemplons. Jésus souffre, Jésus veut souffrir. Et pourquoi Dieu a choisi de se faire homme et de souffrir de cette façon si effroyable? Sinon parce que nous devons être sauvés de quelque chose. C'est le sauveur. Sauveur de quoi? Sauveur de l'enfer. Il nous sauve de l'enfer. Il applique sur vous son sang divin. Ce n'est pas le sang d'un homme. Qu'est-ce que vous en ferez de le sang d'un homme? Pauvres illuministes que nous sommes, nous mettons sur le même plan. Nous avons perdu l'idée d'un être supérieur à nous qui s'est fait homme pour épandre son sang, pour nous sauver. Et alors, avec quelle dévotion, avec quelle ferveur, vous futurs séminaristes, un jour vous montrez à l'autel, vous irez offrir la Sainte Hostie, le calice, avec quoi? Avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu, celui qui nous jugera à la fin du monde, dit-il. Mais avec quelle ferveur, avec quelle gratitude, avec quel amour, nous irons monter l'autel pour offrir le sang qui va sauver les âmes. Vous appliquerez les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le monde a besoin. C'est ça que la maçonnerie a voulu enlever à l'Église. C'est ça qu'ils veulent effacer aujourd'hui du monde. Le sacrifice du calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ, en introduisant les mêmes principes qui ont détruit la société chrétienne, maintenant sont officiellement dans l'Église. Eh bien, il faut faire la résistance. Il faut résister, coûte ce qui coûte. Nous ne quitterons pas le calvaire, nous ne quitterons pas le Saint-Sacrifice de la Messe. Pourquoi? C'est là que nous sommes sauvés, c'est par là que les gens y sont sauvés. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Jésus-Christ. Et demandons-le à la Sainte Vierge, aux Vierges Immaculées, aux Vierges de Fatima, vous qui nous regardez du ciel, vous qui nous avez donné, Monseigneur les Frères, la fraternité, icône, gardez-nous, gardez vos mains sur notre tête. Si vous nous abandonnez, nous sommes capables de partir n'importe où. Gardez vos mains sur notre tête. Parce qu'au pied de la croix, vous êtes devenu une autre véritable maman. Bien, continuez. Monstratesse et matrem. Montrez d'être notre maman en nous gardant jusqu'à la mort fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Lise consacre le mois de juillet au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Le mois de juillet, c'est le mois du sang. C'est le mois du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul nous dit dans une épître, sine fusionem sanguinem non fit remissio. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et Saint Pierre, premier pape, dans sa première encyclique, car lui-même, il a écrit une encyclique comme Saint Paul, des lettres, Eh bien, Saint Pierre, le premier pape, dit aux chrétiens, « Chrétiens, sachez que vous n'êtes pas pris ni d'or, ni d'argent corruptible, mais vous êtes le prix du sang de l'agneau. » Quelle importance a-t-il le langage du sang dans la religion catholique? Eh bien, vous avez seulement à lire attentivement les paroles du mystère pour comprendre quelle place a le sang dans la religion catholique. Il y a une loi de l'histoire qui dit il faut que le sang soit répandu. Et alors, un grand auteur catholique avait dit, où c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est répandu sur l'autel d'une façon mystique, ou si le sang de l'agneau n'est pas répandu sur l'autel, eh bien, sera le sang des hommes qui sera répandu. Et moi, je vous invite alors, aujourd'hui, regardez autour de vous. Quel des sangs humains est répandu? Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau n'est plus répandu sur l'autel. Et alors, si le sang de l'agneau n'est pas répandu sur l'autel, sera le sang des hommes qui va couler. Et que devons-nous dire aujourd'hui en voyant ces lois qui sont rentrées dans les législations des sociétés d'aujourd'hui? Cette loi de l'avortement, une loi Caïn, homicide, que des fleuves de sang innocent coulent dans les hôpitaux, parce qu'on a toléré l'introduction de la loi sur l'avortement. Cette tolérance Caïn, cette tolérance homicide, on a toléré l'introduction du divorce, quel capital des souffrances dans ces familles cassées. On a toléré l'introduction de la loi de l'avortement. On va bientôt tolérer l'introduction de la loi sur l'euthanasie. Et ça, c'est pratique déjà. Pourquoi tout ça? Parce que le monde se déchristianise. Parce que le sang de l'agneau ne coule plus sur l'autel, ne coule plus sur les âmes dans la confession. Et alors, regardez. Alors, c'est le sang des hommes qui coule. Cette loi de l'histoire, cette loi du sang, reste comme spectacle sous nos yeux. Et évidemment, ces paroles de l'Écriture sainte, ces paroles de saint Paul, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission. Cette autre parole de saint Pierre, premier pape, vous n'êtes pas le prix ni d'or ni d'argent corruptible, mais le prix du sang de l'agneau. Que peut-il comprendre l'homme moderne d'aujourd'hui, matérialiste, qui a fait des valeurs, j'ose pas même dire le nombre des valeurs, qui a fait des biens matériels, son idéal, qu'il a monétisé tout dans son existence? Que peut-il comprendre de la loi du sang? Il ne comprend pas, et c'est pour ça qu'il paye. Et il payera tant qu'il n'ouvrira pas les yeux. Il sera obligé à reconnaître cette loi qui est dans l'histoire. Lisez l'histoire, ne faisons pas de l'imagination. Lisons l'histoire. Lorsque nos sociétés étaient chrétiennes, lorsque le Saint-Sacrifice de la Messe était célébré dans toutes les églises, dans tous les villages, et surtout lorsque les chrétiens ils avaient compris ce que signifiait le sacrifice de la Messe, c'est-à-dire ils n'assistaient pas seulement à la Messe, mais leur vie c'était un sacrifice continuel, un renoncement au bien de ce monde, un renoncement à soi-même pour faire place à Dieu, au commandement de Dieu dans leur journée. Lorsque les chrétiens, lorsque les hommes, ils avaient mis notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Sacrifice, au milieu de leur existence, il n'y avait pas ces lois sanguinaires, il n'y avait pas ces lois homicides, Caïn. Il n'y avait pas toute cette effusion de sang humain. Le sang de l'agneau répandu sur l'autel éloignait ces monstres, éloignait ces démons, les gardait enchaînés au pied de la croix. On a abandonné l'autel Vous avez abandonné le sang de notre Seigneur. Vous avez abandonné l'idéal de la croix. Eh bien, voyez ces monstres qui étaient enchaînés par l'incarnation, par la rédemption de notre Seigneur, enchaînés au pied de la croix, qui se déchaînent. Et ils se manifestent dans nos sociétés, dans nos patries. C'est une loi de l'histoire sur laquelle nous devons beaucoup méditer, oui. Eh bien, considérons l'importance de ces précieux sangs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, en voyant le spectacle du monde qui se profane, du monde qui se paganise, nous devons nous demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous a enlevé? Eh bien, on nous a enlevé l'idéal de la croix. Et pour comprendre cela, nous ne pouvons pas nous souvenir des grands tableaux religieux, catholiques. Il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre, pauvre homme moderne, plein de lui-même, avec son progrès technique, qui lui permet de tuer avec plus d'efficacité. Oui, pauvre homme moderne, qui ne sait plus reconnaître que ce n'est pas lui qui a fait le ciel et la terre. Il ne sait plus reconnaître qu'il y a un Dieu qui a mis un ordre. Eh bien, au moins nous réfléchissons. Ce n'est pas nous qui avons fait ce que nous voyons. Ce n'est pas nous. Il y a un Dieu. Et alors, qu'est-ce qui nous enseigne la foi catholique? C'est que Dieu a créé des êtres intelligents et libres, les anges et les hommes. Mais justement parce que libres, ils peuvent utiliser leur liberté pour faire le bien ou faire le mal. Et lorsque ces créatures libres, et je parle des hommes, parce que les anges ils ont déjà passé leur épreuve et sont déjà définitivement fixés dans leur éternité, au ciel ou à l'enfer pour toujours. Mais restent les hommes, les camps de combat entre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Mais lorsque les hommes, les créatures libres, ils utilisent leur liberté pour aller contre les commandements de Dieu, pour aller contre les plans d'amour de Dieu, c'est Dieu qui, quand même, nous a créés par amour. Pourquoi nous existons? Saint Augustin nous dit, « Quia Deus caritas est », parce que Dieu est la bonté même. Et le propre de la bonté, c'est de se donner, c'est de se répandre. Alors Dieu a inventé des êtres libres et intelligents qui puissent participer de son bonheur. Mais pour ne pas les faire des animaux, il les a créés libres. Les animaux, ils sont obligés à suivre les commandements des animaux. Dieu aurait pu nous créer comme obligés à suivre les commandements, mais on n'aurait pas été libre. Non, Dieu nous a voulu créer libres. Mais qu'est-ce qu'ils font les hommes de leur liberté face aux commandements de Dieu? Ils l'utilisent pour aller contre les plans d'amour de Dieu. Et alors? Et maintenant? Que nous avons utilisé notre libre arbitre pour faire le mal. Comment il faut faire? Eh bien, rappelons-nous, notre sainte religion, il nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la très sainte Trinité, se présente devant le Père, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu, certainement la Trinité a participé tout ensemble à la création, mais on attribue à Dieu le Père la création, à Dieu le Fils la rédemption, à Dieu Esprit Saint, le développement de l'Église. Eh bien, alors, notre Seigneur Jésus-Christ se présente devant le Père et dit, « Mon Père, moi je veux restaurer le plan d'amour, j'opérerai l'incarnation et je vais opérer la rédemption. » Et notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 1984 ans, est descendu sur cette terre, a accepté les duels avec Satan, les princes de ce monde, et regardez dans les sanctuaires comme s'est terminé cet duel. Regardez les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun parti de son corps n'a été épargné. Que de sang a coulé de ce corps divin? Eh bien, les démons, en poussant les hommes à crucifier Jésus-Christ, même les démons participeront à la rédemption. Jésus-Christ, notre Seigneur, voulait justement nous donner son sang pour laver nos âmes. Car les créatures libres, après avoir fait les péchés, avec quoi vous allez laver votre âme? Qui enlèvera votre péché? Qui pourra payer pour vous? Saint Alphonse de Ligouri nous dit, mais même si tous les hommes, ils allaient s'immoler devant Dieu pour obtenir le pardon d'un seul péché, ils n'auraient pas à l'auteur de l'obtenir. Car l'offense faite à Dieu, c'est une offense infinie, car Dieu est infini. Et alors c'est lui dans son plan d'amour qui est descendu du ciel. Et contemplons à quel point il nous a aimés jusqu'à nous donner tout son sang. Et lorsque ces soldats romains, avec un geste presque liturgique, avec sa lance, lorsque Rome, avec sa lance, il va percer les côtés de notre Seigneur Jésus-Christ, sortira sang et eau. C'est-à-dire, tous les sangs avaient coulé, il n'y avait plus de sang, sortira quelques gouttes de sang et d'eau. Oui, comme ça a été opéré la rédemption. Comme ça, désormais, nous avons le sang, le très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre disposition pour laver nos âmes de nos péchés. Ce n'est pas le sang d'un homme. Heureusement, qu'est-ce qu'on ferait du sang d'un homme? C'est le sang de Dieu fait homme. Et alors, dans la confession, évidemment, notre Seigneur a institué l'Église, a institué les sacrements, a institué les sacrements de la pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué les sacerdoces, sacerdoces catholiques, qui ont le devoir, la vocation de monter l'autel pour offrir ces sangs uniques, ces sangs divins. C'est l'unique sacerdoce que nous pouvons tolérer, celui catholique. Il n'y a pas un autre sacerdoce. Il n'y a pas un autre sacerdoce fondé par Dieu. Nous ne pouvons pas tolérer d'autres sacerdoces. Il n'y a que des sacerdoces infernales en dehors de l'Église de Jésus-Christ, en dehors de l'Église catholique. Et Jésus-Christ a donné le prêtre qui va offrir le sang-sacrifice dans la Sainte Messe. Dans un geste qui est reçu par Dieu dans l'éternel présent, le prêtre offre les corps et les sangs de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la rédemption des péchés. Le sacerdoce, dans la confession, dans l'absolution, il applique les sangs de notre Seigneur Jésus-Christ pour laver les âmes. Quel bonheur, quel bonheur! Mais regardez aujourd'hui quelle attention on a vers ces dons divins que Dieu nous a donnés. Et le monde est devenu bien matérialiste, aveugle. Et comme dit saint Augustin, animalis homo non percipit ea quaesundei. Et l'homme animal ne comprend plus les choses divines, ne comprend plus les choses spirituelles. Il est plongé dans son matérialisme, dans son sensualisme, dans son orgueil. Et alors, plus d'amour à la croix, plus d'amour au sein de notre Seigneur Jésus-Christ, plus de sang-sacrifice de la messe. Mais il y a cette loi de l'histoire. On n'immole plus la divine victime, et alors sont les hommes, sera le sang des hommes qui va couler, et coulera toujours plus, tant qu'on ne reviendra pas au sang divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien alors, demandons dans la prière, demandons dans nos supplications, demandons cette grâce. Suivez la messe, lisez les prières de la messe, pour voir comme notre Sainte Mère l'Église donne d'importance à ces sangs divins. Quel rôle a joué le sang divin de Jésus-Christ? Lisez dans les prières de la Sainte Messe. Augmentez votre amour pour la Sainte Messe. Aujourd'hui, à l'époque où cette époque c'est le résultat d'un processus de déchristianisation, à travers l'humanisme, le protestantisme, le libéralisme, le communisme, le matérialisme, le monde veut exiler notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la laïcisation de la société. C'est un dessein diabolique, satanique, pour en arriver à rendre le monde imperméable à la grâce. Et lorsque le monde sera rendu imperméable à la grâce, lorsque la grâce ne descendra plus abondante sur la terre, lorsqu'on aura chassé notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a déjà chassé, de la société temporelle, politique, des lois, on a exilé notre Seigneur. Et maintenant, avec cette réforme de l'Église, on veut changer la religion fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les sectes sataniques, la maçonnerie, qui travaillent maintenant même à l'intérieur de l'Église, aura atteint cette butte, qu'est-ce qu'il arrivera? Eh bien, le monde sera rendu imperméable à la grâce divine. Et nous pouvons vivre seulement parce qu'il y a la grâce divine. Eh bien, la grâce divine ne descendra plus sur la terre. Et à ce moment-là, des portes infernales vont s'ouvrir. Regardez aujourd'hui dans les librairies, la diffusion du spiritisme, satanisme, occultisme. C'est les démons qui se manifestent. Il peut commencer à enlever les masques. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus recours au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grande leçon que nous devons tirer. Les catholiques, ils doivent regarder ce qui se passe aujourd'hui, comprendre ce qui se passe, savoir qu'est-ce que nous avons perdu, pourquoi ces monstres se déchaînent aujourd'hui. Nous avons perdu le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la rédemption, et nous devons revenir là. Et chaque fois alors, d'autant les ennemis cherchent de rendre le monde imperméable à la grâce, d'autant chaque fois qu'est offert le saint sacrifice de la messe. D'autant chaque fois qu'un prêtre lève le calice avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, cet geste liturgique, cet geste éternel du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ fait une brèche dans cet siège ennemi et la grâce descend abondante sur la terre. Il vous en faut davantage pour augmenter votre amour au Saint-Sacrifice de la Messe. Il vous en faut davantage pour commencer à désirer que notre Seigneur Jésus-Christ retourne à régner, que son sang lave les âmes, purifie, sanctifie, christianise ce pauvre monde qui, aveuglé, tombe toujours plus bas. Eh bien alors, unissez-vous, catholiques, vous pouvez beaucoup pour favoriser le Saint-Sacrifice de la Messe. Vous pouvez beaucoup pour soutenir les prêtres. Vous pouvez beaucoup en vous offrant vous-même, en offrant vos sacrifices, en union du sacrifice de la victime, beaucoup obtenir des grâces pour la sanctification des séminaristes, des prêtres, parce que le Saint-Sacrifice de la Messe soit toujours célébré. Coûte ce qui coûte, nous avons besoin que de ça, pour chasser les démons, pour obtenir la grâce de Dieu. Et alors, soyez généreuses, soyez généreux. Offrez tous vos sacrifices, vos prières, faites tout ce qui dépend de vous pour collaborer à l'œuvre de la rédemption. Et demandons-le à la très sainte Vierge, aux saintes Vierges, aux reines du sang de Jésus-Christ, aux médiatrices du sang de Jésus-Christ, obtenez-nous cette grâce de comprendre l'heure tragique que nous vivons, notre vocation à cette heure. Ne laissez pas que nous allons nous endormir face aux ennemis de l'Église qui avancent comme une marée infernale qui monte. Donnez-nous la force. Offrez par vos mains immaculées le Saint-Sacrifice de la Messe, les plaies de notre Seigneur, la Sainte Messe à laquelle nous allons assister pour nous obtenir des dieux toutes les grâces nécessaires pour commencer cette conversion intérieure de chacun de nous. La restauration commence là-dedans. Chacun de nous doit faire une place à Dieu dans sa journée, par la prière, le chapelet. Donnez toujours plus d'importance à Dieu. Soyez des hommes religieux, des personnes religieuses, qui donnent une place à Dieu dans cette vie pour en avoir une place dans l'autre, dans l'éternité. Oui, ô Sainte Vierge, obtenez-nous la grâce de nous convertir, de préparer ce que les saints ils ont annoncé, pour préparer ce que vous-même, Sainte Vierge, à Fatima, vous avez annoncé, votre royaume, le royaume de Marie, ce que vous nous avez dit pour nous encourager, pour nous fortifier, à la fin, le cœur immaculé triomphera, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Tous aventer, que te porta vita beata, ubiraque subsisti. Angelus Domini, nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour corriger ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que la foi, c'est l'adhésion de la volonté aux vérités révélées. Je m'en corrige. La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence aux vérités révélées. La Sainte Église, aujourd'hui, dans la Sainte Liturgie, nous propose le troisième dimanche de Carême. Mais aujourd'hui, c'est aussi le 25 mars, la fête de l'Annonciation. Demain, nous sera permis d'honorer la Sainte Vierge. Mais on n'est pas empêché aujourd'hui de prêcher sur ces grands mystères de l'Annonciation. Le peuple chrétien appelle le 25 mars la fête de l'Annonciation. Mais la réalité est encore plus grande, c'est la fête de l'Incarnation. Dieu s'est fait homme, c'est les jours, l'heure décidée par la très sainte Trinité pour opérer cet grand mystère. Et verbum caro factum est. Y a-t-il un mystère grand? Y a-t-il une chute de la part de Dieu plus grande que celle de se faire homme? Dieu s'est fait homme. Et comment? Eh bien, je vous l'anticipe tout de suite. En fécondant une femme. Oui. C'est, enfin, Dieu rentre personnellement dans l'histoire des hommes. Il bouleverse, il pulvérise pour toujours tout naturalisme. Évidemment, cela répugne aux illuministes, aux rationalistes. Mais c'est le surnaturel qui intervient. Et de quelle façon Dieu descend personnellement du ciel pour féconder une femme. Deo gratias. Mais reprenons la chose dès le début et essayons de la développer. Nous avons toujours besoin dans ce climat d'athéisme latente de reprendre tous les grands thèmes. Qui a fait le ciel et la terre? Quelle est la commission de l'ONU qui organise les jours et la nuit, qui a organisé le roulement des saisons? Ce ne sont pas les hommes qui commandent ça. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait ce que nous voyons. Il y a un Dieu. Dieu existe et Dieu est présent. Nous avons toujours grand besoin de revenir là-dessus. Mais qui c'est Dieu? Eh bien, Dieu, nous le connaissons à travers ses œuvres. Comment nous pouvons nous faire une idée de Dieu? À travers ses œuvres, et c'est dans les brévières de ce matin, dans les matines, le psaume 8 qui nous dit « Domine Dominus noster, quam admirabilis est nomen tuum in universa terra. » Oui. Eh bien voilà, qui est Dieu? Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre, et c'est celui qui possède au plus haut degré toutes les perfections que nous connaissons, que nous expérimentons dans la réalité. Il faut encore la contempler.
il faut encore la regarder et quam admirabilis, et s'étonner, c'est avoir encore cette capacité de contempler et de s'étonner devant ces œuvres qui, pas nous, pas les hommes, ils ont fait. Ils ne sont pas capables. Oui. Dieu possède au plus haut degré toutes les perfections que nous expérimentons. La majesté de Dieu. Et nous, et vous, illuministes, je m'excuse, mais nous n'avons plus cette idée de Dieu. Car l'idée, c'est fait, l'idée de Dieu, l'idée de la majesté de Dieu, s'est féconde continuellement en contemplant le réel, ce qui sort de la main de Dieu. Alors notre idée de Dieu, notre esprit se dilate. Il commence à prendre mesure. Il commence à se faire de façon plus adéquate. Une idée de la majesté de Dieu. Dieu possède au plus grand degré, au maximum degré, les perfections que nous expérimentons. Quelle est la majesté de Dieu? Nous sommes petits, ça nous échappe. Oui, nous sommes enfermés dans cette brouillard illuministe, cette brouillard rationaliste. Il faut encore être des esprits pour percer ça et découvrir qu'au-dessus des brouillards, il y a un soleil, il y a le soleil qui est splendide. Mais il faut encore le faire, oui. Eh bien, voilà, nous modernes, est-ce que nous savons utiliser cet instrument de la philosophie? Peut-être beaucoup d'hommes sont privés de la bonne philosophie, mais ceux qui la possèdent, ceux qui ont cet instrument, est-ce qu'ils sont capables de l'utiliser pour dilater notre... Est-ce que nous sommes capables de l'utiliser pour dilater notre contemplation? La majesté de Dieu. Oui, Dieu possède donc les perfections que nous expérimentons. Dieu possède la majesté des montagnes. Il faut encore voir des montagnes majestueuses. Il faut essayer de voir, de contempler le ciel sur son corde, lever les yeux, essayer de contempler cette grandeur, l'univers. Depuis combien de temps vous ne contemplez plus les étoiles, les soirs? Ce n'est pas les hommes qui l'ont fait. Qui l'a fait? Et qui est Dieu qui a fait ça? La majesté de Dieu, oui. Et si nous commençons à contempler cela, Dieu possède la splendeur du soleil, la luminosité du soleil, la chaleur du soleil, c'est lui qui l'a inventé. Et vous osez vous approcher à la communion, recevoir le soleil dans votre bouche? Vous recevez plus que le soleil, vous recevez celui qui a créé le soleil, donc qui est encore beaucoup plus épouvantable que le soleil. Vous pourriez tomber, foudroyer, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église. Avec quelle conscience nous nous approchions à recevoir Dieu même, nous, pauvres illuministes. Hélas, oui. Eh bien, ce n'est pas pour vous éloigner de la communion, au contraire. Approchez-vous. Allez recevoir la communion. Pourquoi notre Seigneur s'est fait, pour ainsi dire, divin prisonnier? Pourquoi Dieu s'est fait divin prisonnier dans les saintes hosties, dans les tabernacles, sinon pour passer quelques minutes avec ses créatures? Vous êtes objet d'un amour divin, il faut encore le savoir. Alors, ne tardez pas, approchez-vous, mais en état de grâce. On ne peut pas se rendre digne soi-même de recevoir Dieu, ou c'est Dieu à travers l'Église et les sacrements, la confession, qui d'en haut en bas nous purifie. Ou alors nous ne sommes pas dignes d'approcher du soleil, de recevoir dans notre bouche le soleil, de recevoir dans notre bouche. C'est lui qui a fait les foudres du ciel. Souvenez-vous d'une foudre. C'est impressionnant. Ce que vous recevez sur la bouche, c'est bien plus impressionnant. Alors approchez-vous avec un grand désir, mais essayez de casser ces chaînes illuministes, ces chaînes rationalistes, pour essayer de réaliser un peu, commençons à percer cette brouillard moderne, et commençons à faire, comme dit Saint Paul, le juste vit des fois. Commençons à réaliser, demandons-le. Donc, il y a un Dieu. Nous avons une... C'est difficile, qui parmi vous a une idée adéquate de Dieu? Dieu possède au plus haut degré les perfections que nous expérimentons, c'est la majesté de Dieu. Mais continuons rapidement. Dieu s'est fait homme. Et verbum caro factum est. Saint Jean dans le prologue nous dit,
Et Deus erat verbum, la deuxième personne de la très sainte Trinité, le Verbe. Omnia peripsum facta sunt. Omnia peripsum facta sunt. Et il continue. Et verbum caro factum est. Qui parmi vous a compris la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ? Impossible, par définition. Mais tâchez de vous approcher, tâchez de percer le rationalisme, tâchez de percer l'illuminisme dans lequel nous sommes vécus. Nous avons l'école obligatoire, évidemment, on nous a endommagés. Essayez de percer, essayez de commencer à penser, à réaliser qu'est-ce qui sont les vérités de la foi. Qui parmi vous a compris la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, malheur à celui qui ne sait pas voir. Malheur à celui alors qui ne comprenant pas qui c'est notre Seigneur Jésus-Christ, rendre inutile sa passion. Nous sommes dans le carême. Qui peut commencer à contempler? Il faudrait avoir une sainte à disposition, une sainte qui nous parle de la passion de notre Seigneur. Créature, mais c'est Dieu qui s'est mis des clous dans les mains, dans les pieds, par tes péchés. Et si tu y penses à ça, c'est pas le sang d'un homme, ça c'est le rationalisme. C'est le sang de Dieu fait homme. C'est pas le sang d'un homme, c'est, pourrons dire encore un peu vulgaire, c'est le sang du Verbe à cause de tes péchés. Vous pourrez rester dans votre médiocrité jusqu'à la mort, si vous voulez, mais après la mort s'ouvriront les yeux et vous commencerez à réaliser ces dimensions, ces mesures, les mesures de la foi. Mais continuons. Quel culte, alors, évidemment, majestueux, doit rendre notre fraternité à notre Seigneur Jésus-Christ, notre fraternité qui a la grâce de posséder la vérité, mais probablement nous possédons des clés d'or, mais nous ne savons pas les utiliser. Ô Sainte Vierge, faites qu'il vienne les jours où ces créatures, ces futurs prêtres, soit capable d'utiliser les clés d'or que vous avez consignées à l'Église. Pourquoi nous ne nous convertissons plus? Parce qu'ils nous sont dépositaires de la vérité. Mais comment nous sommes pénétrés de la vérité? Hélas, il faut encore que l'Esprit Saint nous pousse. Demandons cette grâce. C'est le rôle de notre fraternité. Dans ce monde illuministe, avec la trahison de ces clergés rationalistes, qui nous a donné plus l'idée des vérités de la foi. Mais ce n'est pas encore là-dessus que je vais m'arrêter. Évidemment, pour les taupes illuministes, par les hiboux rationalistes, ces lumières, ça commence déjà à être fortes, trop fortes. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Mais je veux aller encore plus loin. Je veux aller encore plus loin. Je veux aller chez cette femme qui a été choisie par Dieu pour opérer l'incarnation. Mais qui est cette femme? Qui est-ce? Dit l'Écriture sainte. Belle comme la lune, majestueuse comme le soleil, terrible comme une armée rangée à bataille. De quelle majesté jouissent cette femme pour avoir été choisie par Dieu pour être fécondé. Nous, évidemment, nous hommes, nous voyons les choses d'une façon très naturelle. Nous savons que les femmes sont fécondées par les autres hommes. Ça, c'est l'ordre naturel. Eh bien, essayez de percer ces mystères. Dans l'histoire, ça, c'est l'irruption du surnaturel dans l'histoire. Ça, pour les taupes et pour les hiboux, c'est terrible de supporter. Dieu qui intervient dans l'histoire jusqu'au point de descendre du ciel pour féconder une femme. Mais alors, qui c'est cette femme? Qui parmi vous s'est fait une idée adéquate de la Sainte Vierge? En considérant que c'est Dieu, celui qui possède la majesté infinie, il possède au plus haut degré les perfections que nous expérimentons, eh bien, mais près de Dieu, cette femme, mais de quelle majesté elle jouit si elle a été choisie pour une pareille chose? Oh combien le mystère de l'Annonciation cache des richesses! Combien la réalité est beaucoup plus grande, riche, de ce que le seul nom Annonciation peut nous révéler, comment la réalité est beaucoup plus grande. Eh bien, demandons alors à la Sainte Vierge cette grande grâce. Ô Sainte Vierge, vous, dans votre virginité parfaite, vous avez été choisie. Vous qui aviez un amour, une dilatation d'amour, la plus grande parmi les enfants des hommes, obtenez-nous la grâce de comprendre. Essayez de nous faire comprendre toute cette grandeur. Ayez pitié de nous, pauvres hommes, trop humains, mais destinés à passer par la mort et à passer à l'éternité. Destinés à ouvrir les yeux. Essayez, aidez-nous à commencer à les ouvrir. Aidez-nous. Ayez pitié de nous, ô miséricordieuse Vierge Marie. Protégez-nous, ô très sainte Vierge, vous si précieuse près des dieux, vous choisie pour un rôle que nous n'arrivons même pas à essayer de réaliser. Protégez-nous. Dilatez notre amour, dilatez notre capacité de contemplation. Mais regardez-nous. C'est vous qui nous avez portés en cette fraternité pour rester fidèles à l'Église. C'est vous qui nous mettez devant les yeux les manuels des philosophies, des théologies, la possibilité de contempler, mais regardez comment nous restons indifférents. Nous sommes des illuministes, des rationalistes comme les autres. Sainte Vierge, daignez envoyer votre aide. Ouvrez-nous les yeux, apprenez-nous à utiliser ces clés d'or. Envoyez-nous, transformez-nous. L'Église en a trop besoin. Vous, comme dit Saint-Louis Grignon de Montfort, vous avez été choisis. Notre Seigneur est venu à nous pas à travers vous. Cela nous fait comprendre que c'est seulement à travers vous que nous pourrons aller à lui. Alors opérez. Que votre heure vient, Sainte Vierge. Renforcez nos genoux, nous qui avons des complexes d'intériorité face à ces illuministes. Quelquefois, c'est un défaut d'éducation. Adeamus confiducia. Adeamus confiducia. Quelquefois, une mauvaise éducation, une enfance difficile, nous a enlevé la confiance en nous-mêmes. Et alors, vous avez dans les mains les clés, des clés d'or, et vous n'avez pas l'hardiesse de les utiliser, de percer les brouillards du monde moderne. Ô Sainte Vierge, faites-le vous, vous pouvez tout. Transformez-nous, l'heure le demande. La Sainte Église est dans sa passion, est au bout de ses forces, les hommes d'Église en tout cas. C'est votre heure. Donnez-nous ce que Dieu a destiné, nous soit donné par vous. Renforcez nos genoux qui commencent à plier sous les attaques du démon, sous les difficultés. Et appelez aux Saintes Vierges, vos apôtres. Faites-nous entendre vos parfums et notre nature humaine sera excitée. Faites-nous comprendre, vous, c'est des sapientiés. Faites-nous comprendre ce que nous avons encore à comprendre. Et alors, ce qui doit arriver viendra. Opérez ce que vous devez opérer. Nous vous le demandons aujourd'hui dans cette grande fête. Et alors, dans quel mystère de paix, de silence, se passe l'incarnation. Ce moment attendu par les siècles, ce moment invoqué par les patriarches de l'Ancien Testament, ces moments invoqués par les prophètes de l'Ancien Testament, Rorate Caeli Deo Super, dans quel silence mystérieux, dans quelle paix extraordinaire se passe à Nazareth l'Annonciation. Et seulement, évidemment, les philosophes, les théologiens, les contemplatifs, ils ont le pouvoir, la capacité, par la grâce de Dieu, de percer cette simplicité pour trouver la richesse qui est cachée là-dedans. Eh bien, futurs prêtres, hommes de la théologie, priez, demandez si vous n'y arrivez pas tout seul. Vous avez encore un moyen, demandez-le, invoquez-le, croyez à la prière. Demandez de percer cet brouillard et de découvrir qu'après les brouillards, il y a un soleil extraordinaire et nous sommes destinés à ça. Bien qu'il y a la conjuration illuministe qui nous rend rationalistes comme tous les autres, demandez encore. Demandons-le alors les uns pour les autres dans cette grande fête, l'Annonciation, l'Incarnation, Dieu qui descend du ciel pour choisir une femme et s'incarner en la fécondant. Ça, c'est la richesse du mystère. Oui. Eh bien, ô très sainte Vierge, nous vous demandons aujourd'hui, offrez au Père éternel, au Créateur du ciel et de la terre, par vos mains immaculées, les sangs, les plaies, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion de l'agneau, la passion du Verbe, pour nous obtenir cette grâce enfin, qui est ce qui doit arriver, qu'il arrive, et qu'il arrive par vous. Et ne craignons pas, nous ne craignons pas d'exagérer, à avoir confiance, à vous honorer, à vous aimer, aux femmes parmi les femmes qui vous avez été choisies par Dieu pour un mystère que nous n'avons même pas à comprendre. De Maria non quam satis, dit Saint Bernard. De la Sainte Vierge, jamais assez. On ne peut pas exagérer. Oh Sainte Vierge, parce que Dieu le Père a exagéré pour premier en ayant confiance en vous, en vous confiant quoi? Une enfant, mais une enfant le plus précieux, l'enfant entendu par nous tous. Sans lui, s'il n'est maître ni qu'il, qui ne recueille pas avec moi, il disperse. Eh bien, après que Dieu le Père a exagéré en ayant confiance en vous, ô très sainte Vierge, donnez-nous la grâce d'avoir une confiance sans mesure pour vous. Faites que nous commençons à réaliser qu'est-ce que c'est l'idée de l'existence de Dieu, l'idée de la présence de Dieu. Vous devez devenir des âmes eucharistiques, si seulement vous pouviez comprendre. Nous ne comprendons pas, les saints y comprenez. Et essayons, faute de sainteté, d'être des philosophes, des théologiens et des contemplatifs. Ça, c'est dans votre pouvoir, vous pouvez en tout cas vous disposer. Malheur à vous si vous passez votre unique existence en ayant des clés d'or, des pouvoirs surnaturels entre les mains, futurs prêtres, des pouvoirs épouvantables et n'ayant pas réalisé ce qui vous a été confié. Cette médiocrité sera châtiée au moment de la mort, dans laquelle l'âme passe et commence à voir. Ô très sainte Vierge, donne-nous la grâce de réaliser cette idée de l'existence de Dieu, cette idée de la présence de Dieu, cette idée de la majesté de Dieu. Ô notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été écrit, demandez et vous obtiendrez. Ô très sainte Vierge, obtenez-nous cela. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a exagéré, lui, le Verbe pour premier, en vous honorant. Il a exagéré, il vous a honoré à tel point, vous, femmes de notre race humaine, lui, Dieu, une distance infinie. Il a exagéré en vous honorant, en vous choisissant pour maman. Qui peut dire autant? Qui peut dire autant? Seulement vous, ô Sainte Vierge, obtenez-nous cette grâce. Et parce que Dieu, Esprit Saint, a exagéré pour premier en vous aimant, obtenez-nous cette grâce de vous aimer sans limite. L'Esprit Saint, il a exagéré en vous choisissant comme épouse, en nous indiquant qu'il n'y a rien de plus aimable que vous. Eh bien, obtenez-nous cette grâce et obtenez-nous la grâce. Venez, venez écraser la tête du serpent qui nous fait tellement du mal, qui nous trompe tellement. Et alors, et enfin, un jour, venez, ô Sainte Vierge, ô Immaculée, notre bonheur, venez nous prendre parce que nous puissions un jour, enfin, vous contempler au ciel, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.